Dévoilement la semaine dernière des lauréats des prix QILAM 2024. Ça, c'est le prix scientifique le plus prestigieux qu'on peut recevoir au Canada. Et parmi les gagnants, on retrouvait deux chercheurs québécois. D'abord, le roboticien Clément Gosselin et le microbiologiste Sylvain Moineau. Beau prétexte, vous imaginez bien, pour inviter Clément Gosselin, qui est ingénieur et directeur du laboratoire de robotique à l'Université Laval à Québec, pour prendre des nouvelles de son domaine de recherche. Bonjour, Clément Gosselin.
Bonjour.
Ben d'abord, félicitations. Comment on se sent quand on reçoit ce prix-là, qui est quand même un prix scientifique prestigieux?
Ben c'est certain que comme chercheur, on travaille jamais en fonction de prix ou de distinctions comme celle-là. Mais bon, quand elles arrivent, on est quand même heureux, particulièrement parce que c'est une évaluation par les pairs essentiellement, des recommandations des pairs. Donc, c'est une reconnaissance de la communauté. Alors ça fait particulièrement plaisir.
C'est une belle tape sur l'épaule.
Absolument.
C'est drôle parce que je disais à ma conjointe que j'allais vous parler et puis elle me disait à l'époque, tu avais un club de robotique à l'époque, est-ce que vous auriez participé? Est-ce que c'est un intérêt qui s'est développé très jeune?
Pas nécessairement.
Ouais.
Ce qui m'a amené à la robotique, c'est plus la fascination pour les sciences et pour la physique en particulier. Oui, évidemment, quand j'étais petit, je jouais avec des mécanos, des choses comme ça, ce qui m'a attiré vers le génie mécanique. Mais je dirais, ce qui m'a surtout attiré vers la robotique, c'est justement la modélisation des systèmes physiques, particulièrement la dynamique des systèmes physiques. Donc, une fois qu'on a un modèle, qu'on le simule, ben c'est comme si le système prend vie, là. Et donc ça m'a vraiment fasciné là, dès le cégep puis début de l'université.
Je veux pas vous vieillir, mais ça fait quand même un moment que vous trempez dans le milieu. Aujourd'hui, vous êtes quand même en charge du laboratoire de robotique à l'Université Laval. Quand on regarde le temps qui a passé, j'ai l'impression que la robotique en particulier, puis même dans un contexte d'intelligence mécanique, on a l'impression que les dernières années, on a été à vitesse grand V dans le domaine. Est-ce que je me trompe?
Vous avez raison, parce que si on regarde d'un point de vue historique, bon, ça fait quand même un demi-siècle là, que les robots sont dans des entreprises manufacturières. Mm-hmm. Donc, on pourrait dire qu'on a commencé par les choses les plus faciles, donc des environnements très structurés où on sait se trouvent les choses, c'est toujours répétitif, etc. Là, on arrive à un point où on peut sortir de ça puis aller vers des choses beaucoup plus complexes. Puis ça amène des défis, mais on a aussi des motivations pour s'attaquer à ces défis-là. Je pense entre autres à la pénurie de main-d'œuvre. Donc là, ça touche pas juste ce qui se passe dans des usines, des entreprises manufacturières, ça touche tout. Donc là, ça devient intéressant là, de pouvoir s'attaquer à autre chose et on a des bonnes motivations là, pour le faire, comme je le disais.
Oui, puis c'est intéressant que vous mentionniez ça. Puis d'ailleurs, je veux revenir à cet intérêt que vous portez à ces robots capables d'interagir avec les humains parce que avant la pandémie, on était encore dans le scénario où les robots allaient enlever des emplois aux humains. Les gens allaient être remplacés. C'est vrai dans quelques contextes industriels, on s'entend. Mais aujourd'hui, post-pandémie et avec le manque de ressources et d'intérêt aussi de la main-d'œuvre qui est passée à autre chose dans sa vie, on a l'impression que les robots maintenant sont mieux accueillis et sont vraiment vus comme quelque chose qui va venir aider les entreprises dans le terme presque noble de la chose.
Oui, vous avez raison encore une fois, c'est la perception a changé. Donc, la perception était très forte là, dans le passé. Là, les robots, c'est des voleurs d'emplois. Là. Et donc, si on se souvient dans cette époque-là, entre autres au niveau politique, par exemple, qu'est-ce que les politiciens, comment est-ce qu'ils comptaient leur déclaration? Mais c'était en création d'emplois. Donc, si on dévoilait, par exemple, un financement pour une usine complètement automatisée, ben c'était moins intéressant parce que ça créait pas beaucoup d'emplois. Cependant, on se rend compte maintenant que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un frein au développement économique. Et là, la perception change et on dit, tiens, si on avait des robots qui pouvaient faire une partie du travail, qui pouvaient assister, etc., là, on a un gain. Et puis, veut pas, on se rend compte aussi que ailleurs les gens ont fait le même calcul. Puis ils sont en train de pousser très fort la robotique pour améliorer donc l'efficacité et donc être très concurrentiel.
Mais c'est ça qui est intéressant, vous, dans votre démarche de roboticien, c'est l'intérêt que vous portez à ces nouvelles créations, en tout cas de nouvelles générations de robots qui vont travailler main dans la main avec l'humain. Ça aussi, là, on parle d'une nouvelle génération. On est ailleurs là, de l'image stéréotypée qu'on avait d'un immense robot qui travaillait tout seul, encadré dans une cage parce qu'il était dangereux pour l'humain.
Exactement. Donc, si vous regardez, par exemple, dans les usines d'assemblage automobile, donc vous avez une partie du travail qui est fait par des robots, par exemple, souder les carrosseries, faire la peinture, des choses comme ça. Et dans cette partie-là de l'usine, ben, tout est fermé, comme vous le dites, personne ne peut rentrer là, c'est dangereux. Et donc, ils travaillent tout seuls. Et dans une autre partie de l'usine, vous avez l'assemblage final, mettre les sièges dans la voiture, les tableaux de bord, etc. Et tout ça, c'est fait essentiellement à la main par des personnes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile à automatiser. Il y a beaucoup plus d'incertitudes. On a besoin de la perception humaine là, pour faire des ajustements fins, des choses comme ça. Donc, pour des raisons économiques, ces tâches-là n'ont pas été automatisées dans le passé. Maintenant, on arrive à un autre niveau. Puis comme vous dites, si on veut sortir de ça, aller dans des environnements qui sont conçus pour les humains, bien là, à ce moment-là, il faut penser autrement les robots. Et ça soulève beaucoup de défis, comme je le disais. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle, donc il y a des défis en termes de capacité des robots d'inférer sur leur environnement, mais il y en a aussi des défis énormes, il y a aussi des défis énormes en termes mécaniques, donc en termes de concevoir des robots qui peuvent, comme vous dites, travailler avec des personnes, mais qui vont être sécuritaires, qui vont être intuitifs pour interagir avec. Donc les robots actuels qui sont dans les entreprises manufacturières ne font pas ce travail-là, là. Ne peuvent pas satisfaire à des demandes comme celle-là.
On sort un instant justement du milieu industriel, les manufactures où on est à l'intérieur. Vous regardez aussi dans le domaine agricole.
C'est un des domaines qui m'intéresse. Je peux pas dire que j'ai travaillé beaucoup là, dans un domaine comme celui-là, mais c'est très intéressant parce que j'y vois un grand potentiel. On voit bien que la pénurie de main-d'œuvre est marquée dans ce domaine-là. Puis la main-d'œuvre étrangère, c'est pas une solution viable à long terme. Donc, il faut passer à autre chose. Et là, les défis sont énormes. On est à l'extérieur. On est dans un environnement qui est peu structuré. Il y a une certaine structure, mais la structure est quand même assez large, je dirais. Et c'est difficile. Donc, vous récoltez des fruits, par exemple, vous regardez les fruits, vous dites, bon, ben, tiens, celui-là est prêt à être récolté, celui-là peut-être pas. Il y a beaucoup de difficultés. Vous voulez manipuler avec un effecteur de robot des fruits, vous voulez pas les endommager, c'est très important. Donc, les manipuler doucement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de défis là, à ce niveau-là. Puis après, il y a aussi tout le traitement. Dans le domaine agroalimentaire, là, on pense par exemple aux usines pour le traitement des animaux, donc l'abattage, le traitement de la viande et tout ça. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup fait à la main. Et c'est des tâches difficiles. Donc c'est des tâches qui sont dures. Donc il y a un potentiel énorme. Et ce potentiel-là, si on l'exploite bien, peut vraiment nous aider là, à aller vers une certaine autonomie alimentaire.
Et d'autant plus qu'on sent l'intérêt dans l'industrie agricole et aussi de la production bovine d'aller de ce côté-là. Je pense juste à, ça fait 2 ans maintenant que je vois des John Deere autonomes dans des champs qui sont beaucoup plus productifs que n'importe quel humain parce qu'il arrive à rouler. À un moment donné, il y a les temps de recharge, mais sinon, il roule inlassablement. Il y a ces systèmes israéliens qui ont été développés avec des drones qui reconnaissent les fruits, qui vont aller les chercher quand ils sont mûrs. Mais est-ce que vous sentez dans les travaux que vous faites, parce qu'il y a aussi du financement qui vient avec ça, parce qu'on ne vit pas d'eau fraîche là, dans le domaine de la recherche. Est-ce que vous sentez que vous avez un appui au niveau du financement pour aller plus loin, particulièrement dans le domaine de l'agricole, comme ça?
Oui, en ce moment, il y a des initiatives, là, des organismes subventionnaires pour aller dans cette direction-là. Donc, ils ont vraiment perçu, là, et je ne parle pas seulement de la robotique, là, il y a un tas d'autres choses, un tas d'autres domaines de recherche qui gravitent autour de ça, l'agriculture de précision, donc le traitement, etc. Donc, il y a en ce moment des initiatives, oui, effectivement. Donc, c'est récent, c'est très récent. Donc, on va, sans jeu de mots, là, on va en récolter les fruits peut-être un peu plus tard. Mais ça s'en vient et je pense que les organismes subventionnaires ont compris ça et ont vu cette opportunité-là.
En tout cas, c'est un beau moment pour l'agrotech. Ça, on ne va pas le nier.
Oui, non, absolument. C'est dans l'air, comme on dit. Puis, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le potentiel de ça qui est très intéressant.
Clément Gosselin, vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur du laboratoire de robotique. Quand vous regardez là, les étudiants qui travaillent avec vous, c'est quoi les grands domaines sur lesquels ils sont en train de se concentrer?
Bien, nous, traditionnellement, au laboratoire de robotique, on développe beaucoup des nouvelles architectures de robots. Donc, autrement dit, on regarde quels sont les défis liés aux applications qu'on vise, puis on essaie de constamment repenser la nature même du robot, donc la structure même du robot en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, et non pas de constamment répliquer là, les mêmes architectures de robots. Donc, ça a fait en sorte qu'on a travaillé beaucoup sur l'appréhension. Parce que la plupart des robots sont là pour prendre des choses, les déplacer, etc. Puis on a travaillé sur les architectures de robots pour faire des robots qui puissent aller très rapidement, qui puissent manipuler des charges plus lourdes, qui puissent interagir avec des personnes. Donc, c'est ces directions-là là, qu'on développe beaucoup au laboratoire de robotique. Alors, bien sûr, nous, on est un laboratoire de robotique. Alors, si je regarde l'ensemble de la recherche qui se fait en robotique au Canada ou même ici à l'Université Laval dans d'autres laboratoires, il y a plein d'autres sujets aussi qui sont traités. Donc, la robotique mobile, par exemple, donc des robots qui se déplacent dans des terrains non structurés, en forêt, etc. L'agriculture, je le mentionnais tout à l'heure. Et puis, on a aussi des entreprises de robotique au Québec et au Canada qui développent des robots, qui exportent beaucoup de robots et de systèmes robotiques pour des domaines industriels, pour des domaines médicaux. On n'a pas parlé beaucoup du médical, mais c'est aussi un domaine très intéressant.
Est-ce qu'il s'en fait beaucoup du côté de l'Université Laval, de développement de ce côté-là?
À l'Université Laval, on a deux laboratoires de robotique, dont le laboratoire de robotique que je dirige, puis il y a aussi un autre laboratoire de robotique au département d'informatique qui s'appelle le laboratoire de robotique Boréal, qui est surtout les robots mobiles. Et dans notre laboratoire de robotique, on a aussi un groupe qui est essentiellement dédié à l'ingénierie de la réadaptation. Donc ça, c'est relié des dispositifs pour aider à la réadaptation ou encore aider des personnes qui sont qui ont des besoins là, différents. Donc ça, c'est le professeur Alexandre Campeau-Lecourt là, qui travaille avec nous au laboratoire de robotique, qui dirige ce volet-là là, de la recherche.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir?
Beaucoup de robots, aussi des oreilles attentives de la part des gens qui s'intéressent à notre recherche puis qui financent notre recherche. Comme vous le disiez tout à l'heure, on fonctionne avec des partenariats, des subventions des organismes subventionnaires et tout ça. Et donc, c'est de reconnaître le potentiel là, qui est derrière tout ça pour nous aider à continuer à aller de l'avant.
Et rassurez-moi en me disant que vous enseignez systématiquement aux nouvelles créations que vous avez entre les mains, vous mettez en service les lois d'Asimov.
Ah, les lois d'Asimov sont présentes dans notre esprit constamment. Vous pouvez être assuré.
Et puis pour ceux qui se posent la question, si vous allez voir dans le descriptif de l'entrevue, vous verrez, elles sont énoncées, juste pour se rafraîchir la mémoire. Clément Gosselin, encore félicitations pour ce prix QILAM 2024. Je rappelle que vous êtes ingénieur de formation, mais aujourd'hui, vous êtes aussi directeur du laboratoire de robotique à l'Université Laval à Québec. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
Merci, ça m'a fait très plaisir.
Au revoir.
Au revoir.